jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Les auditeurs ont la parole, on parle des voisins et l'enfer des voisins. Chantal est avec nous, bonjour Chantal.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous aimez vos voisins, vous Chantal?
S'ils ne m'embêtaient pas, oui. Moi, je ne cherche pas d'histoire, mais on n'arrête pas d'être harcelé.
Ah, voilà, encore une Française qui dit qu'elle a un vrai problème de voisinage. Vous nous raconterez ça dans un instant. Vous aussi, d'ailleurs, vous nous raconterez ça, les amis. Allez, tout de suite avec Agnès Monfillon, c'est le rappel des titres sur RTL.
Emmanuel Macron le dit très clairement, oui, en cas de menace terroriste, il existe bien un plan B, voire un plan C. Pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques normalement prévue sur la Seine, eh bien celle-ci pourrait être délocalisée au Trocadéro ou au Stade de France. Quelle riposte pour Israël après les tirs iraniens sur son territoire ce week-end. La communauté internationale s'active pour éviter un embrasement dans la région. L'Allemagne vient de convoquer à son tour l'ambassadeur iranien. Très forte hausse du nombre de morts sur les routes au mois de mars, les routes françaises. Selon la sécurité routière, 254 personnes ont perdu la vie. C'est 31% de plus qu'à la même époque l'année dernière. Les victimes sont essentiellement de jeunes adultes. On passe à la météo. Cet après-midi, clair de l'orme, on attend beaucoup, beaucoup de vent.
Surtout pour le nord du pays, puisqu'on a la dépression Renetta qui se creuse au niveau des îles britanniques. Elle va apporter donc des rafales, en tout cas pour la France, allant jusqu'à 100, voire 120 km/h. C'est pourquoi trois départements sont placés en alerte orange pour vent violent. Le nord, le Pas-de-Calais, ainsi que la Somme pour cet après-midi, accompagné donc avec ces vents de la pluie assez copieuse. Mais bon, cette dépression, elle va quand même passer assez rapidement dans le courant de l'après-midi. Donc elle va dans un premier temps aller donc vers le littoral de la Manche, puis ensuite vers l'intérieur des terres. Elle va très vite s'évacuer ensuite par la Belgique avec le retour donc d'un ciel un petit peu plus variable. En revanche, en direction du sud, bien ça sera un dégradé nuageux. On pourrait même avoir encore des éclaircies plutôt sympathiques, un plein soleil en direction de la Méditerranée mais au prix du Mistral et de la Tramontane. Là où ce serait un petit peu plus dégradé, ce serait au niveau des Pyrénées et vers le Lyonnais avec une petite averse. Pour les températures, retour à la normale, 11 à 16 degrés en général, surtout de la Bretagne, Pays de la Loire, en remontant vers le nord, 16 à 21 degrés ailleurs, et on pourrait avoir jusqu'à 27 degrés près de la Méditerranée et la région Rhône-Alpes.
Merci Claire.
Merci Claire Delorme et à demain Agnès Bonfillon sur RTL. Vous connaissez le chemin, vous connaissez l'adresse, vous avez tout. Hein.
J'ai tout.
On vous attend donc demain à midi. Bonjour Lisa Marie Marquez.
Bonjour Éric, bonjour à tous.
Vous m'avez manqué pendant cette petite semaine de vacances.
Oui, vous m'avez manqué aussi.
Je ne partirai plus jamais en vacances. Voilà, c'est
plus
clair.
Jamais, c'est dit.
Avons-nous eu des messages?
Bien sûr, vous risquez jusqu'à 750 euros d'amende si votre chien n'est pas tenu en laisse en forêt. Éric, votre chien il s'appelle comment?
Pascal.
Votre chien Pascal, donc désormais il faut le tenir en laisse. On va en parler avec nos auditeurs. Alice a réagi au 3210.
Bonjour, je m'appelle Alice, j'habite dans le parc naturel du Haut-Jura. J'appelle au sujet de l'amende pour chiens sans laisse en forêt. Mais il y a aussi une loi qui interdit les véhicules à moteur dans les forêts du parc. Mais nous sommes envahis de quads, motocross ou trial et 4x4. Et malgré les signalements, ils ne sont jamais verbalisés. C'est sûr qu'il sera plus simple de courir après un promeneur avec son chien.
Et oui, les quads et les motocross, c'est interdit dans les forêts publiques. Et nous, on continuera à parler des chiens en laisse en forêt aujourd'hui. Vous pouvez dès maintenant réagir au 3210 et sur l'application RTL.
750 euros,
c'est pas rien. Autre sujet au programme, le contrôle technique des deux roues et des voitures sans permis. C'est désormais obligatoire. Ça ne fait pas plaisir à David qui a composé le 3210.
Bah, je trouve ça comme d'habitude. D'un côté, Sa Majesté nous dit qu'il n'y a pas de nouvel impôt. Et on nous balance ça dans le genre, c'est pour votre sécurité. Ah bon, j'ai pas besoin de quelqu'un pour savoir si la mobylette, elle est aux normes ou pas.
Et comme David, on attend vos réactions. Le numéro, c'est le 3210. Vous pouvez également nous écrire sur l'application RTL. Nos standardistes Margot, Cerise, Léonard et Enzo attendent vos appels et vos messages.
Éric Brunet vous donne la parole sur RTL.
Hervé Pouchol est avec nous, négociateur de... Hervé, oui. Tous ceux qui écoutent RTL vous connaissent, vous êtes dans la galaxie Julien Courbet depuis des années, des années, sur TF1 aussi, Guerre des voisins sur TF1, c'était quoi dans les années...
C'était dans les années 2000.
2000, voilà.
Ouais, plus de 100 reportages quand même réalisés, et des négociations, parce qu'au départ,
Vous êtes un négociateur, vous, enfin, votre job, vous n'êtes pas négociateur du RAID, vous êtes négociateur des voisins.
J'ai déjà discuté avec un négociateur du RAID, parce qu'on rétablit tous les deux la parole. Moi, il est un peu moins risqué, mon métier, bien qu'il y a certains voisins, parfois, qui peuvent sortir la fourche. Et Julien, un jour, je me suis amusé à négocier un bateau, comme ça, qu'il ne voulait absolument pas acheter, et il m'a dit, mais tu aimes négocier. Moi, j'aime négocier, mais c'est le côté ludique de mon esprit. Et il m'a dit, bah, écoute, nous, on a une partie des voisins, mais l'autre partie n'accepte pas d'être filmée et de témoigner. Si tu arrives à convaincre la seconde partie, tu auras la chronique.
Et l'ambiance est sympa chez Courbet, où il fait semblant, vous faites semblant de tous vous entendre et de vous marrer.
Heureusement.
Et en réalité, par-dessous, vous vous tirez des balles.
Ça fait 33 ans qu'on se connaît, on est les meilleurs amis du monde, c'est le parrain de mon fils, et on s'entend très très bien, et il nous taquine, et il taquine tout le monde, surtout dans la bonne humeur, et heureusement d'ailleurs.
L'actu sur le voisinage, qu'est-ce qui se passe là sur les voisins? Vous sortez un livre?
Oui. Alors ça s'appelle La guerre des voisins, 20 ans plus tard, parce que La guerre des voisins revient. J'ai dit à Julien, quand même, ça serait peut-être bien un jour de refaire des reportages et des négociations 20 ans plus tard. Et ben il m'a dit chiche, au bout d'une minute.
Voilà.
Et c'est demain soir, 21h sur M6 dans Arnaque.
Très bien, émission spéciale demain soir.
Voilà.
Très bien. Avec Julien et vous, bien évidemment, cher monsieur Pouchol. On est très heureux de vous avoir avec nous, Hervé. Chantal, je reprends avec vous. Chantal, vous nous avez appelé au 3210 et vous n'êtes pas la seule. Vous avez un problème de voisinage. Vous êtes à la campagne, vous êtes en ville?
Non, on est en ville, on est à Lorient, dans le Morbihan.
Qu'est-ce qui vous arrive? Faites-nous simple, parce que les histoires sont souvent très longues, mais pour que les gens comprennent, que vous arrive-t-il?
En 85, quand on est rentré dans notre maison, nos voisins nous ont dit de mettre la haie au ras du grillage, puisqu'ils n'en mettaient pas de leur côté. On l'a fait. Il y a 22 ans, ils ne taillaient plus la haie pendant plusieurs mois, donc on se disait, c'est leur problème, s'ils ne veulent pas le faire, ils ne le font pas. On s'absente quelques jours pour la naissance de notre première petite fille. Quand on revient, on avait un mot d'un huissier dans notre boîte aux lettres, comme quoi nos voisins nous assignaient au tribunal, puisqu'on ne taillait pas la haie. On a été condamnés à arracher cette haie. On n'a pas rechigné, puisqu'on était hors la loi, on l'a enlevé. On en a mis une autre qui est à 50-60 cm, mais le problème continue tout le temps. Quand on la taille, nos voisins vont au Vélux et nous crient dessus en disant qu'on n'applique pas le jugement, alors qu'on l'applique, elle est réglementaire, qu'on refuse de la tailler, ce qui est faux. On a fait venir plusieurs fois des jardiniers, ils ne veulent pas qu'on aille chez eux. Ils nous envoient régulièrement des courriers quand ils partent en vacances pour nous dire qu'à leur retour, il faut que la haie soit taillée, mais de chez nous, sans passer chez eux. Ce matin, il y a encore un jardinier qui est venu. Il nous a dit que c'était impossible de faire comme ça. Au mois de décembre,
Le jardinier ne peut pas tailler votre haie qui est contiguë à leur propriété à eux, parce qu'il a besoin d'être chez eux pour la tailler bien, quoi, c'est ça.
Oui. Oui, et ils ne veulent pas.
Et donc, ces voisins-là vous assignent ces tribunaux, ces décisions de justice et compagnie?
On a été condamnés il y a 22 ans à arracher la haie. On l'a fait parce qu'elle n'était pas réglementaire. On en a mis une autre qui, cette fois-ci, est réglementaire. Mais évidemment, au fil des années, elle a poussé. Et le problème est toujours le même. Ils ne veulent pas qu'on aille chez eux. Ils nous insultent sans arrêt. On a eu une altercation l'été dernier.
Alors que je suis sûr que Chantal, dans la vraie vie, s'ils étaient venus vous voir en disant bonjour, on est vos voisins, comment on pourrait s'entendre pour que la haie soit à la bonne hauteur, vous auriez accepté de faire ce qu'ils demandaient autour d'un verre de vin. Puis voilà, c'était réglé, non Chantal, au début?
On leur propose à chaque fois de tailler la haie et de ramasser ce qui tombe chez eux. Ils ne veulent pas.
Ça, Hervé Pouchol, ça encore une fois. Ça, là, on est sur le voisin procédurier, on en parlera dans une seconde.
Absolument.
Ça, c'est très fatigant. À tout de suite.
Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210.
50 centimes la minute.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Éric Brunet.
Moi, c'est pour les voisins. C'est un voisin qui ne s'occupe pas de son jardin. Il a de l'herbe, au moins presque 1,50 m à 2 m de haut. Et tout est à traîner dans le jardin, c'est honteux. Voilà, je voulais signaler ça.
Toujours préféré aux voisins, les voisines, dont les ombres chinoises.
Hervé Pouchol, là c'est très intéressant. Donc on vient d'entendre ce message qui vient d'être laissé à l'instant là. Le jardin du voisin est c'est une espèce de forêt vierge. Mais revenons sur le cas de Chantal juste avant. Chantal nous dit en gros, voilà, j'ai des voisins procéduriers, c'est insupportable, c'est tribunal, c'est faites tailler la haie. Mais en revanche, pour la tailler, vous n'entrez pas dans notre jardin. Les jardiniers disent oui, mais on peut pas faire si on ne rentre pas dans le jardin des voisins pour tailler votre haie. Enfin, on est sur les super procéduriers là.
Alors vous voyez, dans l'émission, on donne la parole aux deux parties. Souvent, il y a des torts partagés. Je dis pas que c'est le cas de Chantal, mais d'une manière générale, souvent il y a des torts partagés. Il faut se parler, il faut se présenter, il faut être. Encore une fois, je me répète, c'est une part de civisme qui est très importante quand vous avez envie de ne pas avoir de problème avec vos voisins. Dès le premier souci, plutôt que de vous écrire ou de déposer plainte, essayez de vous parler, essayez de faire un effort. Après, vous pouvez tomber sur des personnes qui sont très
procédurières
et qui ne parlent pas.
C'est vrai que dans la vie, il y a le voisin chiant, mais c'est quand même rare de voir le voisin qui va jusqu'à la procédure judiciaire, quand même. C'est quand même un truc de déposer plainte, d'aller de prendre un avocat, c'est lourd.
Absence de dialogue. Donc forcément, à partir du moment où j'ai compris que cette dame était dans une maison individuelle, c'est le printemps, on ouvre ses fenêtres, on se rend pas compte du bruit, donc forcément, il va y avoir d'autres problèmes de troubles de voisinage avec du tapage diurne également, hein, faut pas l'oublier, tapage diurne dans la journée. Et puis, il faut faire vraiment, vraiment, vraiment très attention à bien, bien établir de bonnes relations dès le départ, parce qu'après, vous risquez de vous retrouver sous l'anti dépresseur.
On a tous je crois que c'est commun à tous les Français. On a tous vécu un jour l'enfer avec un voisin. Aude est là au 3210 également. Bonjour ma chère Aude.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes à la campagne ou en ville vous ?
Plutôt à la campagne, aux abords d'une forêt.
Que vous arrive-t-il alors ? C'est la forêt qui vous gêne ?
Alors non, la forêt ne me gêne pas du tout, mais il y a un stand de tir juste derrière la forêt.
Aïe, aïe, aïe.
Voilà, leur activité a sûrement bien proféré, le nombre d'adhérents a dû bien augmenter, puisque là, c'est tous les jours des contraintes liées au tir.
Alors, est-ce que quand vous avez acheté votre maison, votre terrain, il y avait le stand de tir ?
Il y avait le stand de tir, on a posé des questions auprès du notaire. Ils avaient une activité très limitée de tir de carabine et deux fois par an, ils avaient une activité sur le week-end.
D'accord.
Donc ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. J'ai une petite anecdote très très rapide. Il y avait une personne qui avait acheté une maison et il était en centre-ville, il était tout content. Le problème, c'est qu'il travaillait la nuit, ce monsieur, donc il avait besoin de se reposer le matin. Et sa maison était juste à côté d'un terrain de pétanque. Et je peux vous assurer que toutes les personnes qui jouaient à la pétanque dès le matin, non seulement urinaient sur ces plantes, mais en plus de ça, arrêtez pas de s'engueuler. Et le bruit des boules en permanence, à chaque fois qu'il y avait un carreau, ça l'empêchait de dormir. C'était un trouble de voisinage, alors qu'il y avait un boulodrome municipal flambant neuf que personne n'utilisait. On a réussi à faire déplacer le problème, c'est-à-dire qu'ils ont rejoint le boulodrome municipal et ce monsieur n'a plus de problème, il peut dormir.
Ah, ouais. Alors que vous, il était préexistant, votre centre de tir.
Et voilà.
Alors, ils auront beau jeu de dire... Écoutez, il y a plus d'activité aujourd'hui, mais ça n'est pas une création, Aude.
Oui. Sauf que nous, on a acheté pas dans ces termes-là, en fait.
Oui. Vous, c'était pas tous les jours, quoi. Loin s'en faut.
Non, deux fois par an ou deux fois dans la semaine, c'est pas tous les jours, même le dimanche, jusqu'à 18h, en fait.
Alors, il y a une solution, quand même. C'est d'aller voir le président du club en lui expliquant... j'imagine que vous êtes déjà adressé à lui, je l'espère, en tout cas. Qu'est-ce qu'il vous répond ?
Bon, rien, puisqu'en fait, quand j'essaye de trouver les coordonnées du club avec le trésorier, le président, en fait, sur le site de la mairie, rien n'est répertorié.
Alors, si je peux me permettre, je vais prendre vos coordonnées hors antenne et on va essayer de vous aider avec Julien, parce que dans Arnaque, il y a un spécial voisin demain. Et ça, c'est tout à fait une idée de reportage. Et puis, j'ai une idée de résolution de conflit, en fait, pour ne rien vous cacher, quoi.
Ah, vous seriez mon sauveur.
Voilà.
Très bien, on va prendre les coordonnées de Aude hors antenne. Au revoir, Aude. Très belle après-midi à vous à l'écoute d'RTL. Tamar a fait le 32-10. Bonjour Tamar.
Bonjour à vous.
Qui est Tamar et que vous arrive-t-il, ma chère Tamar?
Alors, j'ai acheté en 2019 un bien à la campagne dans un petit village qui s'appelle Vers-le-Grand en Essonne, en Île-de-France. J'y vis avec mes deux filles et je suis dans une espèce de longère, donc je partage mes deux murs de chaque côté avec donc des voisins, dont un mur avec des voisins. On va dire plutôt malveillants, hein, qui nous font vivre tapage diurne et nocturne, semaine, week-end, voilà. Pas de répit pour nous, avec de la méchanceté, et puis surtout, aucune peur de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'ils sont sur le monde et puis ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent au moment où ils veulent.
Que font-ils exactement? C'est-à-dire, tapage diurne, par exemple, ils écoutent de la musique, ils crient.
Exactement, voilà, vous avez tout dit. C'est-à-dire de la musique avec des grosses enceintes qui nous font vibrer les murs.
Ils écoutent du rap, Tamar, ils écoutent du rap.
De la techno, c'est pire. Parce que la techno, mais boum, 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 c'est insupportable. Non, mais à un moment donné, c'est vrai que ça vous tape vraiment sur les nerfs. Ça tape dans les murs.
Et les enfants d'à côté, ils ont quoi? Ils ont 16-17 ans, c'est des ados?
Pas du tout. Il y a une petite qui est en maternelle et l'autre qui est en sixième au collège.
D'accord.
Donc, vous avez des parents qui sont dans ce mood-là, j'ai envie de dire. On ne respecte personne.
Donc, vous, le problème, c'est vraiment le bruit,
le boum, boum, boum. Nuit. Ah, il n'y a pas que ça. Il y a les déménagements de meubles la nuit également. Il y a les « je tape dans les » pour nous réveiller. Donc, ils tapent sciemment dans la chambre de mes enfants pour les réveiller.
Ouais. Alors là, Hervé Pouchol, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur parler? Qu'est-ce qu'on fait là?
Il faut leur parler, bien entendu, parce que là, c'est insupportable. Tapage diurne avec. J'ai l'impression qu'ils exagèrent un petit peu, voire ils vous provoquent un peu. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Mais quoi qu'il arrive, ils n'ont pas le droit de mettre la musique à fond. Ça, c'est. Et concernant les déménagements de meubles, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faudrait que ces personnes, mettent des patins sous leurs chaises et leurs tables. Comme ça, ça ne serait pas le tremblement de terre chez madame, juste en dessous.
Tu en as acheté ça, des petits carrés de feutrine?
Ah oui.
Ça c'est pas mal ça.
C'est indispensable.
Très bien Tamar, merci. Ça serait intéressant de savoir si Tamar leur a parlé déjà. Tiens, allez, dans un instant nous serons avec Michel, avec Luc, à tout de suite.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Moi, j'ai dénoncé mon voisin.
Ah bon, qu'est-ce qu'il m'a fait?
On le sent pas, il est suspect. Eh ben déjà, il dit bonjour tous les jours.
Ben c'est sympa, ça, Catherine.
Ah, la naïve, je le savais. Sympa. Un grand malade, tu veux dire. L'autre fois, Béa, jusque-là, il me tient la porte. Moi, je suis une voisine parfaite. Je dis pas bonjour, je dis pas au revoir. Je pique les places de parking.
Non, ils doivent te détester, tes voisins.
Ah oui, l'autre fois, j'ai même entendu, tiens, là, voilà la conne du 52.
Catherine et Liliane sur Canal+, le sketch. Oh. Ah là là, Enzo, d'ailleurs au standard, Enzo, est-ce qu'on reçoit des messages écrits?
Ah oui, bonjour Eric, bonjour à tous. Nos internautes sont ravis de retrouver Hervé ce midi et nous partagent également leurs conflits de voisinage sur la page Facebook, comme Andy qui a peur du chien de ses voisins et Franck qui subit constamment du tapage nocturne. Et dans une dizaine de minutes, nous changeons de sujet, nous parlerons du contrôle technique pour les motos et les voitures sans permis qui devient obligatoire aujourd'hui. Trouvez-vous ça ou bien au contraire, cette mesure vous met-elle en colère? C'est le moment d'appeler le 3210 pour réagir. Margot, Cerise et Léonard se tiennent prêts à recevoir vos appels.
Allez, beaucoup d'appels, mesdames, messieurs, elle est simple. Y a-t-il un voisin qui vous rend la vie impossible, que vous soyez à la campagne ou en ville? Je veux vous entendre sur ce sujet. Ou, deuxième question, avez-vous réussi à trouver un modus vivendi intelligent avec votre copropriété, avec vos voisins? Un truc super sympa qui fait que finalement, ça se passe toujours bien. Tiens, moi, l'autre jour, j'avais besoin d'un thermomètre. J'en avais pas. Ben, ma voisine m'a donné son thermomètre. Bien évidemment, je suis allé l'en racheter un tout neuf, mais j'étais très malade. J'avais de la fièvre. Heureusement, heureusement que j'avais une voisine sympa. Voilà. Et ça sert. Mais il y a certains voisins à qui je n'aurais jamais osé demander un truc aussi intime et particulier qu'un thermomètre. Mais j'avais 39,5 de fièvre. Hein,
donc... Mais vous avez bien mieux fait de vous adresser à votre voisine plutôt qu'à moi. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que si vous avez une voisine âgée, essayez de lui porter ses courses. Ça, c'est pas mal. On fait de très jolies rencontres également entre voisins. On peut même se marier.
Ouais, on peut même se marier. Mais moi, par exemple, en charge mon chat.
D'accord. Très bien.
Ben voilà. Michel, bonjour Michel.
Bonjour Eric, bonjour Hervé.
Bonjour.
Où êtes-vous Michel ?
Saint-Estèphe, en Gironde.
En Gironde. Que vous arrive-t-il ? Vous avez des voisins indélicats ?
Alors, non, non, non. Je suis le maire de la commune et j'ai des administrés. Les problèmes de voisinage sont le premier problème que l'on voit en mairie, que l'on reçoit en mairie. Et donc, ce que je disais à votre collaboratrice, c'est que j'ai une administrée qui est arrivée à faire le vide autour d'elle. Les voisins arrivent à vendre leur maison et à partir.
Ah bon ? Mais qu'est-ce qu'elle leur fait subir ?
Tout simplement, elle leur fait subir sa colère perpétuelle. En fait, elle habite à l'angle d'une impasse qui appartient aux ayants droit, donc non pas sur le domaine public. Et tous les matins et tous les après-midi, bien, la voiture mal garée, le sourire de travers, parce qu'à un moment donné, les rapports se tendent.
Oui.
Et donc, il n'y a plus de sourire, et c'est la grimace. Et effectivement, les gens sont tellement excédés que ils font des grimaces, des gestes, on va dire, un peu osés ou autres. Et donc, ça dégénère.
Attendez, j'ai pas compris. Qui fait la grimace ? C'est elle, la voisine indélicate obsessionnelle, ou c'est le climat qui se tend et c'est les autres qui lui font ?
Ce sont les voisins excédés.
D'accord.
C'est pour ça que je dis qu'elle s'est isolée, elle s'est mise dans une bulle.
Parce que le point de départ, c'est quoi ? C'est qu'elle va les voir en disant « Votre voiture est mal garée, vous avez fait ça, vous avez fait trop de bruit, vous faites ci, vous faites ça toute la journée, et peu à peu... elle a fait le vide autour d'elle, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Est vraiment dans son tort, cette voisine ?
Oui.
Oui.
Oui. Elle peut avoir, sur le fond, raison à certaines fois. Sauf qu'à un moment donné, les gens ne supportant plus ses réflexions, on va dire, font exprès de se mettre, mal garé, de travers, l'empêcher de rentrer, ne serait-ce que... par sa petite porte de jardin. Enfin, voilà, on est arrivé à des rapports de force.
Elle est tellement Hervé Pouchol, cette voisine-là. On est dans une petite commune Saint-Estèphe, on est dans une ville moyenne d'ailleurs. Et elle est tellement, tellement insupportable que les gens font tout pour l'agacer.
Et puis surtout, le problème, c'est qu'ils s'en vont. Et c'est-à-dire qu'il y avait peut-être des personnes qui étaient là depuis des années, depuis que cette voisine est là, ils sont obligés de partir, parce que ça complique la vie, mais ça rend malade certains voisins, donc ils préfèrent partir plutôt que d'affronter ce genre de problème. Je voudrais saluer le rôle du maire, qui était c'est le médiateur à la campagne.
Cette mère, cette mairesse, on dit mairesse, elle nous dit que c'est la première cause de sollicitation d'un élu municipal, c'est les troubles de voisinage.
Et ils font un travail merveilleux, parce qu'ils font un travail de médiation, alors qu'ils ne sont pas obligés de le faire, et ils réunissent les voisins, mais il est difficile d'être le médiateur et de ne pas prendre position. Il suffit de dire aux voisins, essayez de bien vous entendre, mais le problème, c'est qu'un conflit de voisinage peut durer pendant des années et des années. Cette personne, elle a réussi à faire le vide autour d'elle, donc forcément, y a d'autres voisins qui se vengent un peu, en essayant de la taquiner ou en l'embêtant.
Qui est très important, on va faire de la psychologie dans un instant, parce que il y a souvent dans une copropriété, dans un immeuble par exemple, on va voir le monsieur retraité qui lui n'a pas grand chose à faire et qui étudie tous les points de droit.
Ouh là là.
On est d'accord.
Il est terrible, celui-là.
Il est terrible. Et puis il y a aussi celui, alors il y a l'avocat un peu raté, donc il a fait des études de droit, il est avocat, mais il a fait toute sa vie un conseil juridique dans une compagnie d'assurance. Il s'est pas vraiment éclaté dans son. Mais alors là, dans son immeuble, là, il a vraiment décidé de faire respecter le droit, monsieur. Et lui, il est impitoyable.
Et il est souvent au conseil syndical, ce qui est terrible.
Ouh, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
Éric Brunet vous donne la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Éric Brunet.
J'appelle par rapport à un litige avec des voisins. Nous résidons dans un lotissement privé. Dans ce lotissement, il y a un parking visiteur qui doit être occupé par les visiteurs des silos. Et en fait, il se trouve utilisé par des locataires qui n'appartiennent pas au lotissement et dont leurs locaux jouxte le lotissement.
Ils sont rentrés, j'entends du bruit sur le palier, peut-être ils vont jouer.
Et alors là, Hervé Pouchol, là, on parle du voisin et de la place de parking. C'est un grand classique, là,
ouais,
ça commence comme
ouais.
ça.
C'est un grand classique. Alors, dans ces cas-là, il faut déposer un mot aimable que vous signez avec votre numéro de téléphone pour dire « Monsieur, vous n'êtes pas garé à la bonne place ». Voilà, il faut essayer, dans un premier temps, d'établir un rapport cordial. Et puis ensuite, vous passez par la gardienne, par le syndic, si vous n'arrivez pas à identifier la voiture. Souvent,
c'est vrai que si
voisins...
on commence par tordre les essuie-glaces, c'est pas bon.
Bah, soit les tordre, soit toucher la voiture d'un voisin, c'est terrible. Oui. Là, vous touchez à sa voiture, à son bien personnel, et là, c'est la crise, ensuite. Mais même le fait de relever les essuie-glaces, oui. ça veut dire que la personne est mal garée. Ça, il faut éviter de le faire, mais souvent, il vaut mieux faire ça que de casser l'essuie-glace.
Bonjour Laurence. Bonjour Laurence, est-ce que vous m'entendez Laurence ?
Oui, je vous entends très bien. En fait, moi, ce sera Brest, j'ai une maison. Nous avions des voisins un peu bruyants, mais bon, ça allait, ça venait. Puis ils ont divorcé et la dame a mis sa maison en location Airbnb. C'était il y a une dizaine d'années, ça a duré pendant à peu près 5 ans. Ça a été juste l'enfer. Et au moment où on s'est dit, bon, on arrête, on va vendre, elle a vendu parce que les locataires Airbnb lui ont mis la maison à sac. Et là, elle a craqué. Et elle a vendu, et maintenant on a des voisins charmants. Mais voilà, ça a été l'enfer.
Oui. Quel profil vous aviez donc, vous aviez des locataires Airbnb qui venaient 3 jours, 8 jours, 1 mois.
Voilà, 2 jours, 3 jours. Non, 1 mois jamais.
Oui.
Une semaine maximum. Et c'était souvent, ils étaient souvent nombreux. Ils faisaient la fête.
Oui.
Et quand on leur disait, mais c'était jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin, quoi. Y a une piscine, c'était horrible. Et ils nous insultaient, quand on leur disait quelque chose, ils nous insultaient.
Terrible.
Voilà. Ouais.
C'est terrible, c'est pas la première fois que...
Psychologiquement, c'est intenable, invivable.
Okay. Vous lui parliez à la propriétaire ?
Mais oui, et après, elle m'avait bloqué, donc elle a fait semblant de pas avoir mes messages. Et puis quand elle l'a vendu, comme la maison avait été mise à sac, elle avait besoin de passer par chez moi. Et elle m'a donné son numéro de téléphone, c'était le même. Et là, j'ai dit, ah, c'est bon. Donc, je lui ai interdit de passer chez moi parce qu'il arrive un moment où c'était plus possible. Mais voilà, de mauvaise foi. Et elle louait pas très cher, en fait. Du coup, elle trouvait toujours preneur. Quoi, hein. C'était constamment loué, constamment.
Et du coup, une population pas toujours sympathique.
Très jeune et très alcoolisée, souvent, qui venait faire la fête, quoi. Après, on habite Marseille, donc je sais pas moi, des grands événements sportifs au stade Vélodrome ou autre, vous vous retrouvez avec une quinzaine de hooligans à côté, quoi.
C'est-à-dire que vous louez votre maison ou votre appartement pour 4 personnes maximum. Bah, les 4 personnes, ils invitent 12 à 20 personnes. Et là, moi, à mon avis, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes qui se cotisaient pour avoir une maison avec piscine. Bah, c'est pour y faire la fête et puis pour se baigner. Et malheureusement, le voisinage...
C'était terrible parce qu'on se faisait insulter. Quoi. Il y avait le bruit, plus les insultes. En fait, c'était... Wow.
Ouais, il rejouait les Marseillais.
Et voilà, c'est exactement ça. Je ne suis pas l'émission, mais d'après ce qu'on me décrit, c'est ça.
Et depuis que vous avez des voisins, vrais, exactement. Vous avez retrouvé le sourire.
Bah oui, vous avez des gens normaux, et s'ils doivent faire une fête, ils avertissent, comme nous, si on doit en faire une, on avertit, quoi. Enfin, civilisé, on va dire. Éduqué.
Merci Laurence de ce témoignage. Vrai sujet. Merci, vrai sujet Airbnb. Hein. Vrai sujet Airbnb, ça, parce que dans des petits appartements à Nantes, à Lille, à Strasbourg, partout, à Marseille, cette question se pose. Pas seulement pour une maison avec piscine, mais pour une copropriété avec le voisin du troisième qui a acheté un petit appartement pour investissement, hein, et ça change tous les deux jours.
Avant d'acheter, avant de louer, vous faites votre petite enquête de voisinage. Mais petite enquête vraiment approfondie. C'est-à-dire que vous allez voir les voisins, vous allez voir la gardienne. Vous sortez même un petit peu pour essayer de discuter avec les voisins aux alentours. Si jamais vous avez un restaurant ou un bar musical qui va faire du bruit tous les soirs, bah il faut pas louer, il faut pas acheter. Et à la campagne, c'est pareil, faites votre enquête, allez voir le maire, il vous dira la vérité.
Bonjour Luc.
Allô, bonjour.
Est-ce que vous avez fait une enquête, vous, avant de vous établir, mon cher Luc ?
Ah oui, oui, avec ma conjointe, nous avons acheté une maison individuelle en banlieue est de Paris. Et oui, 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 avant d'acheter, on s'était rendu plusieurs fois sur place et on avait constaté l'absence de nuisances à l'époque. Hein.
Bah tout va bien alors. Ouais.
Non, tout va très mal aujourd'hui. Hein. En fait, on est passé du paradis à l'enfer. Ça a été le paradis pendant 4 ans à peu près, où comme la famille s'était agrandie, ben, on est allé en banlieue, et puis on s'était très bien intégré, on s'est même marié sur place, on a eu des enfants supplémentaires, et ça a été le paradis jusqu'en 2015, où un établissement de fast-food en poulet rôti s'est installé à peu près à une trentaine de mètres de chez nous. Et avec les vents dominants d'ouest, en fait, toutes les odeurs arrivent sur notre maison. Et ben, c'est un enfer parce qu'on ne peut plus profiter de notre terrasse. C'est très désagréable. Alors c'est tous les jours, sauf lundi, tous les jours, entre 11h et 21h, 22h, l'odeur de poulet.
Ah oui.
Donc c'est insupportable.
Ouais. Et ça grignote l'espace, quoi, finalement. Dès que vous ouvrez une fenêtre, dès que vous sortez sur votre terrasse, dans votre petit jardin, c'est poulet grillé.
Oui, alors ce qui est très pervers en plus, c'est que c'est pas tout le temps, c'est pas sans discontinuer. Mais c'est un peu comme une torture chinoise, si vous voulez. C'est tantôt ça pue pas, on se dit qu'on peut sortir, et puis on est dehors sur la terrasse depuis une demi-heure, et puis à nouveau ça pue. Donc voilà, c'est insupportable, c'est très stressant. Très angoissant.
C'est en fonction du vent aussi, hein, parce que là, avec le printemps, c'est l'époque du barbecue. Si vous avez un voisin qui est le roi du barbecue, qui fait des barbecues quasiment tous les jours, et si en plus de ça, il a choisi de faire un barbecue avec des sardines, je peux vous assurer, vous avez la fumée et l'odeur. Et là, c'est terrible. Quand vous faites un barbecue, quand vous êtes vraiment copain avec vos voisins, essayez de faire attention par rapport au vent. Mais là, ce monsieur, dans ces cas-là, il faut s'adresser vraiment d'abord au directeur du fast-food, parce qu'il y a possibilité peut-être de faire monter la cheminée un petit peu plus haut pour que les odeurs partent au-dessus.
Luc, est-ce que vous avez parlé à ces propriétaires du fast-food ?
Alors, on s'est parlé, mais ça a tourné assez vite à l'aigre. Donc après, on est passé par les services municipaux, parce qu'on pensait que la mairie pouvait nous aider via les réglementations de la ville. Et en fait, ça n'a rien donné. On a été obligé d'attaquer en justice. Alors ça, c'était au début 2022. Là-dessus, il y a eu plusieurs réunions avec la médiatrice qui ont été tentées, mais à chaque fois, la médiatrice l'a annulée pour raison de santé. Et donc, bah, on a continué l'action en justice. Mais ça fait, alors en tout, ça fait 8 ans donc. Et puis l'action en justice ayant démarré 2022, bah, depuis, on attend. Bah, c'est insupportable.
Ouais, ouais. Alors, c'est le cas typique de la nuisance qui vous ronge. Qui vous ronge, parce que c'est chaque instant de la vie. Vous ouvrez une fenêtre. Bon, merci Luc pour ce témoignage. Il n'y a personne qui a des bons voisins, qui a envie de dire finalement, moi je m'entends avec tout le monde, hein, Enzo. Ah, il me fait signe, Enzo. Il y a Irène qui est avec nous. Elle est là, Irène. Bonjour Irène. Irène ?
Oui, bonjour. Bonjour Eric.
Vous ne plaignez pas, vous ?
Jusqu'à présent, jamais.
Oh là là, on la garde au chaud, celle-là. On la garde au chaud. Un peu de joie et de positif dans cette émission aujourd'hui. À tout de suite.
Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210.
50 centimes la minute.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Éric Brunet.
Voisine qui mange la bonne cuisine et fait ses gros gros ronds sur un balai de redondondon. Le chat de la voisine qui se met plein les papines de poules et de foie gras et ne chasse pas les rats. Yaou!
Vos voisins vous font-ils vivre un enfer? Manifestement, oui, mais pas pour tout le monde. Irène est avec nous. Bonjour Irène.
Bonjour Eric.
Alors,
bonjour
vous, tout le monde. Vous me disiez à l'instant que vous ne vivez pas l'enfer.
Non, et puis j'ai l'impression d'être à contre-courant de tout ce que j'ai pu entendre depuis le début de l'émission. En effet, moi j'ai déménagé
pas mal de fois pour mon travail, et à chaque fois que je suis arrivée dans une ville, dans une commune, souvent à la campagne parce que j'aime beaucoup la campagne, je me suis toujours présentée aux voisins. Bon, il y a toujours quelques grincheux ou des choses où les gens ils sont un peu en retrait, mais tout s'est toujours bien passé, à tel point que j'ai fêté mes 60 ans il y a 2-3 ans. Et j'ai invité 8 couples de voisins, et ils sont tous venus, des gens que j'avais rencontrés au fil de mes déménagements en ménagement.
Ah oui, des voisins qui n'étaient plus voisins entre eux, puisque c'était des voisins successifs que vous aviez
eus. C'est des voisins successifs, absolument, et qui sont devenus des amis au fil du temps. Enfin, mes voisins sont restés mes amis, en fait.
Ça prouve voilà. Que Irène, franchement, oui. Hervé, Irène, ça doit être quelqu'un de bien, parce que ce sont devenus ses amis, ses voisins.
On a pensé à la même chose, Eric. C'est la voisine idéale, Irène. Ça s'entend, sa voix. Hein.
Quelqu'un de bien, oui, probablement, mais j'aime les gens. J'aime les gens, tout simplement.
Ça s'entend. Hein.
On se respecte et puis tout se passe toujours très bien. Voilà.
Bon. Eh bien, écoutez, c'était chouette de vous entendre. Et c'est vrai que quand on déménage, on se dit, mon Dieu, pourvu que je n'ai que des Irène.
Exactement, le sourire, la gentillesse, la bienveillance. Bravo, Irène, ne changez rien.
Oui, il faut aimer les gens. Je pense que la vie n'est pas toujours simple. Et il faut respecter les gens, les aimer. Je pense que tout se passe toujours bien.
Merci, Irène. Vous êtes dans quel coin, là, aujourd'hui, que je sache où déménager, la semaine prochaine?
Je suis en Vendée, mais à la campagne, la pleine campagne.
Dans quel coin de Vendée?
Alors, sur la route de la Roche-sur-Yon.
Sur la route de la Roche-sur-Yon, très bien. Voilà. Merci, ma chère Irène.
Bonne journée.
Très, très bonne journée à vous. Hervé Pouchol, notre négociateur, médiateur, que va-t-il se passer sur M6 demain soir?
Ah bah écoutez, il ne doit pas être très, très loin, notre ami Julien, qui va peut-être venir en studio pour nous en parler. Allez, regardez, demain soir à 21h sur M6, avec notamment deux reportages.
Asseyez-vous, Julien, vous savez comment marche le micro? Mettez le casque. Mettez le micro juste en face de la bouche, voilà.
Un, deux,
c'est bon. Paris-Lyon,
Marseille. Je me suis dit, je vais venir lui faire une petite blague, quand même. Comment ça va?
Ça va.
Et les vacances se sont bien passées?
Très bien, très très bien. On se tutoie ou on se vous voit
On se tutoie. On est en dehors, là.
On n'est pas à l'antenne, là. On risque rien, là. Bon, que se passe-t-il demain soir?
Demain, il y a une très belle émission, Arnaque, avec spécial conflit de voisinage. Et d'ailleurs, je sais pas, je vais t'en raconter une qui est vraie. Je suis avec Hervé Pouchol ici présent. Et je l'avais emmené, j'avais à l'époque un petit billet à la campagne, et on regarde un match de foot. Et je venais juste de s'installer, mon épouse elle est dans le jardin, et là le voisin sort. Première fois qu'il nous voit, on vient, c'est le premier jour où on est. « Vous êtes les nouveaux propriétaires ?»« Oui, monsieur, elle lui fait. Ouais. »« Je vous préviens, je veux pas d'emmerdement !» Elle dit « Mais monsieur, il n'y en aura pas. »« Parce que s'il y a des emmerdements, moi j'appelle Courbet !» Et là elle dit « Mais attendez, on va aller le chercher. » Je suis arrivé avec Hervé, j'ai cru qu'il allait faire un malaise.
Ah,
une histoire vraie. Donc demain, il y a des conflits, voilà. Et puis il y a Hervé qui...
Mais du coup, on t'emmerde jamais, toi. Les voisins hésitent à t'embêter.
Non, les voisins, ça va, mais parce que je suis gentil. Surtout, ils ne m'embêtent pas parce que je suis gentil avec eux.
Oui, tu as bon fond. Oui, c'est
exactement.
Très bon fond. Bon, ben on sera là.
Merci en tout cas.
Ouais, mais on sera là, et c'était bien, Hervé.
Alors, on a passé un sacré bon moment.
C'est plutôt plus sympa ici qu'un peu plus tôt dans la matinée sur RTL.
Oui, on se marre bien quand même. Hein.
Moins bien payé, c'est pour ça qu'il reste chez nous.
Salut les amis.
Salut, merci Eric.
Merci. Donc vous avez compris ces quelques conseils, les amis. Chérissez vos voisins et allez les voir le plus tôt possible, le plus en amont. N'attendez pas que les histoires dégénèrent. Voilà. Et si vous mettez un petit mot sur le pare-brise, signez-le, le petit mot, avec votre numéro de téléphone, etc. Voilà les enfants. Dans un instant, nous allons parler de moto.
Jusqu'à 14h30,
Éric Brunet vous donne la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
Moi je boycotte du racket organisé par le gouvernement français. Vous savez, j'ai fait 70 ans, ma moto ne passait pas au contrôle technique. Je n'irai pas au contrôle. Bon, vous prenez ma moto, vous faites le plein, vous allez où vous voulez. Les freins, les pneus, suspension, vidange, c'est tout fait. Une fois par an, la révision complète.
Vous dites, c'est une loi quand même qui est passée, c'est une loi de la République.
Réparez les routes d'abord, monsieur. Réparez les routes. Vous voulez faire un tour, je vous rends faire un tour quand la moto. Vous allez voir les routes, vous allez pleurer. Et les priorités. Ça, la priorité, c'est d'abord les routes.
un motard en colère qu'on entend, qui était au micro ce matin de RTL.
Oui, il avait un petit accent marseillais, ce motard.
Un petit accent marseillais, absolument.
Bon, alors, Lisa Marie, pourquoi, dans Les Auditeurs ont la parole sur RTL aujourd'hui, parlons-nous du contrôle technique des deux roues?
Parce que le contrôle technique devient obligatoire à partir d'aujourd'hui pour les véhicules de catégorie L. Donc, les deux roues, oui, mais également les scooters trois roues et les voiturettes. Jusqu'à présent, ces 3 millions de véhicules échappés au contrôle technique qui a été instauré en 1992 pour les voitures. Et bien, ce ne sera plus le cas.
Donc, si je récapitule, donc désormais, à partir de maintenant, les deux roues, c'est-à-dire les mobylettes aussi, non ?
Bien sûr, bien sûr. Alors, pas que les deux roues, hein. Les véhicules de catégorie L, donc scooter, moto, voiturette, et pour éviter...
Mais les mobylettes aussi, enfin les 50 cm3 aussi également. Ouais.
Oui, tout ce qui est thermique, et pour éviter les goulots d'étranglement dans les centres de contrôle, la mise en œuvre sera progressive. Concrètement, c'est la date d'immatriculation du véhicule qui sera prise en compte. Les propriétaires d'un véhicule immatriculé avant le 1er janvier 2017 devront y passer au plus tard le 31 décembre 2024. Donc c'est eux qui doivent passer en premier.
Bon, Guillaume a fait le 32-10, les amis. Quelle info, quand même, mine de rien, ça va changer le quotidien de beaucoup de Français, hein. Guillaume.
Oui, bonjour.
Vous avez fait le 32-10, mon cher Guillaume.
Bonjour, monsieur Brunet. Content de vous avoir.
Qui êtes-vous? Pourquoi appelez-vous?
Eh ben, je suis motard depuis quelques années maintenant et je suis en possession d'une machine de collection de 1989. Qui peut aussi, parce que dans le texte de loi, il est affiché qu'on peut aussi passer en critère 3.
Oui.
Donc on pourra m'interdire de rouler, si le centre décide que ma machine est trop vieille, on pourra aussi m'interdire de rouler avec ma moto.
Ah oui, parce que c'est le sujet du véhicule de collection. On peut considérer que pour telle raison technique, votre véhicule de collection n'a pas à rouler sur la chaussée. Oui, effectivement.
Exactement.
Ça, ouais. Donc, qu'est-ce que vous avez comme moto de collection?
C'est une Kajiva Freccia, c'est 12R, 1989.
Oui, bon, donc, je suis pas assez calé, moi.
Okay. C'est une petite italienne, moteur de temps.
D'accord. Et vous redoutez qu'on vous dise au placard?
Alors déjà, oui, je redoute ça, et je redoute que par rapport aux pièces, moi j'ai la difficulté de trouver des pièces par rapport à ma machine, vu son âge, que ça soit plus compliqué, mais dans le sens plus technique, déjà, nous, à la moto-école, on apprend à manœuvrer avec nos motos à l'arrêt. Est-ce que le technicien dans le centre de moto aura la capacité de le faire? Quels vont être les risques par rapport à ça? Si le technicien nous fait tomber la moto, est-ce que... Il y a plein de choses. J'attends le moratoire, il y a un député là qui a lancé, je sais plus son nom, un député de Renaissance, qui a encore lancé un moratoire.
Oui, mais
ça fait des années qu'on en parle.
Guillaume, regardez la voiture. Les voitures de collection peuvent encore rouler avec une réglementation particulière, etc. On peut avoir des voitures de collection sur les chaussées en France.
Avec des dérogations, selon certains départements.
Ouais. Merci Guillaume. Voilà, mais question légitime d'un collectionneur de motos. Thierry a fait le 32-10, mon cher Thierry, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour Eric.
Où êtes-vous Thierry?
Moi, je suis dans le Pas-de-Calais, à Saint-Omer.
Alors, donc, contrôle technique pour les deux roues, pour les mobylettes, pour les motos, pour les scooters, pour les trois roues, pour les voiturettes électriques. D'accord? Vous trouvez ça bien?
Écoutez, moi je suis motard, j'ai trois motos dans mon garage, elles sont toutes en parfait état, même si certaines ont déjà un certain âge, donc je suis pas forcément pour, d'autant plus que les centres de contrôle technique, ils vont rien faire, ils vont regarder la moto, ils vont faire des contrôles visuels. Comme le disait l'auditeur précédent, quand vous allez faire un contrôle technique de votre voiture, vous donnez les clés, vous restez dans la salle d'attente. Là, on va être obligé d'accompagner le contrôleur pour manipuler la machine parce que il va pas oser le faire, il saura pas le faire. Moi, j'ai une machine qui est très haute, qui pèse 250 kilos. Un gars d'1m75, il peut pas la bouger, quoi. Donc, y a des risques. Et ensuite, encore une fois, c'est du visuel, c'est pas sérieux. Alors, moi, ça me fait juste plaisir. C'est une petite revanche quelque part. Ça me fait plaisir parce que les voiturettes, comme vous dites. dites.
Oui, j'ai dit les voitures électriques, les voitures, en fait, c'est les petites voitures pas électriques du tout.
Et tout ce genre de trucs.
C'est les voiturettes thermiques classiques.
Voilà, alors moi je trouve ça.
Les voitures sans
dangereux.
Permis, voilà, les voitures
les
sans
voitures
permis.
Les voitures sans permis, exactement. Je trouve ça très dangereux parce que ça avance pas et parce que souvent elles sont rafistolées dans tous les sens. Et c'est comme les scooters. Les scooters, vous en avez 3 qui sont en bon état pour 7 qui sont pas bien. Mais le contrôle technique en tant que tel, aujourd'hui, pour moi, il n'a pas lieu d'être. C'est un coût supplémentaire. Moi, voilà, j'ai 3 machines. J'ai payé 3 fois 50, 70 euros. Et la personne qui va me dire « Oui, monsieur, vous pouvez rouler » ou « Non, monsieur, vous avez un défaut, machin, ci et ça », il en connaît le quart de ce que j'en connais, moi.
C'est sûr que la moto, c'est pas la voiture. C'est compliqué. Ne serait-ce que, Guillaume le disait tout à l'heure, pour manipuler une vieille moto, ou vous le disiez pour des motos énormes, qui vont être les techniciens qui vont faire ces ces contrôles techniques, ça paraît assez bon.
Voilà,
Sylvain, attendez, je voudrais prendre Sylvain qui nous appelle parce que je crois qu'il est pour. Bonjour Sylvain.
Oui, bonjour.
Bonjour Sylvain, vous êtes plutôt pour, vous, ce contrôle technique des deux roues et des voitures sans permis?
Oui, moi je suis plutôt pour. Déjà, du moment que c'est un moteur et que c'est sur la route, faut qu'il y ait un technicien, un professionnel qui vérifie le véhicule. Comme il disait l'auditeur, et tout de suite, les voitures sans permis qui sont rafistolées de partout, c'est sûr que ça, faut les arrêter, quoi.
Vous en croisez parfois des voitures sans permis qui sont rafistolées de partout, comme vous dites?
Je suis ambulancier, je suis sur la route tous les jours, donc oui. Lui, on en voit beaucoup, des voitures, des motos, des tout ce qu'on veut. Lui, on voit beaucoup de véhicules, je vais dire, dangereux sur la route. Mmh. Après, bon, comme on m'a dit tout à l'heure sur les Facebook, il y a beaucoup de motards qui entretiennent très bien leurs motos, comme des automobilistes qui entretiennent très bien leurs voitures. Mais après, c'est voilà, quand vous avez une moto qui peut monter jusqu'à, comme on voit sur YouTube, 250-300, ben il faut quand même qu'il y ait un professionnel qui vérifie le bon état du véhicule pour éviter un accident, quoi.
Oui. Donc il y a quand même certains d'entre vous qui nous appelaient là à l'instant, qui disent oui, il est bon que l'État mette en place un contrôle technique pour les deux roues. Pour les 3 roues, d'ailleurs, les scooters 3 roues, vous savez, qui ont 2 roues devant, là. Et puis, pour les voiturettes sans permis. Le débat continue. Vous faites le 32-10. Max, Eric, Guillaume, tiens, vous restez avec nous. Hein, je vous prendrai dans un instant. Mais attention, le grand, l'immense Jean-Alphonse Richard vient d'entrer dans le studio. Salut Jean-Alphonse.
Bonjour.
De quoi va-t-il être question à 14h30 tout à l'heure sur RTL, dans l'heure du crime?
Alors, on reste à Paris. Avec une histoire toujours en cours et que vous connaissez fatalement, c'est l'affaire Lola Davier, automne 2022, 12 ans, cette adolescente, elle est attendue par une femme dans le hall de son immeuble, elle est violentée et agressée et elle va mourir étouffée. Alors évidemment la cruauté et puis l'incompréhension face à ce meurtre brutal. La suspecte, elle s'appelle Dabia Benkired, elle a 26 ans, elle est algérienne, elle faisait l'objet d'une procédure d'expulsion et elle n'a pas de travail, elle n'a pas véritablement de domicile. On pense qu'elle est folle, mais elle n'est pas du tout folle. C'est en tout cas ce que disent les psychiatres. On a vu toutes ces expertises ces 2 ans qui viennent de passer. Elles sont très intéressantes. On va les donner dans l'heure du crime. Et 2 ans après, bien l'enquête touche à son terme. Qu'est-ce qu'elle a raconté pendant toute cette enquête d'Abia Benkired, qui risque évidemment d'être jugée aux assises? Eh bien, on vous dit tout dans l'heure du crime. C'est à 14h30 sur l'affaire Lola Davier. Elle avait 12 ans.
Et on sera là dans une poignée de secondes. Les auditeurs ont la parole. Ça continue. On va parler donc de ce contrôle technique désormais obligatoire pour les 2 roues, les 3 roues et les voiturettes sans permis. À tout de suite.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr. RTL.
Les auditeurs ont la parole, RTL, il est 14h. Et voici le rappel des titres avec Lisa Marie Marquez. Lisa Marie, elle a une. En cas de menace terroriste, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, prévue sur la Seine, serait déplacée.
Elle serait limitée au Trocadéro, voire rapatriée au Stade de France. C'est Emmanuel Macron qui l'a dit ce matin à nos confrères de BFM TV. Pour la première fois, le président de la République a évoqué des solutions de repli à 100 jours du début des Jeux de Paris.
Et puis des chiffres dramatiques, le nombre de morts sur les routes en nette hausse le mois dernier, en mars.
Selon la sécurité routière, 254 personnes ont perdu la vie sur les routes en France en mars contre 194 au même mois l'an dernier.
Un mot sur cette nouvelle attaque au couteau en Australie.
Oui, plusieurs personnes ont été blessées lors d'une agression au couteau survenue dans une église à l'ouest de Sydney. C'est la deuxième attaque en trois jours après celle qui s'est déroulée samedi dans un centre commercial. 6 personnes ont perdu la vie et une douzaine de personnes ont été blessées par un homme souffrant de problèmes psychiatriques.
Et puis la météo.
Demain, le temps sera changeant, alternant entre nuages, averses et éclaircies. Sur le nord-est, des orages sont même possibles. Et surtout, la neige fait son retour en montagne.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Éric Brunet.
Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos.
Donc, c'est comme ça, mesdames, messieurs, désormais, contrôle technique obligatoire pour les motos. Pour les scooters trois roues également, pour les mobylettes et pour les voiturettes sans permis. Eric, bonjour Eric. Où êtes-vous mon cher Eric?
Alors je suis en Bretagne.
Où
dans
ça
le 29.
Où ça?
À Trégourès.
Où c'est où? Dans quel coin ça, Trégourès?
Alors ça va 20 km, entre 15 et 20 km de Quimper.
Ah, de Quimper. Vers le Guilvinec par là.
Alors, je suis natif du... Enfin, j'habite le Guilvinec.
Ah, le Guilvinec, ouais, très 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 joli. Port de pêche, d'ailleurs. Sublime, hein, le Guilvinec.
Eh oui.
Sud-Bretagne. Bon, ouais. Eric, vous êtes motard?
Je suis motard, oui. Je roule en Harley-Davidson.
Ah, quelle joie vous devez avoir ressenti ce matin quand on vous a dit, à partir de maintenant, contrôle technique pour les motos.
Alors là, je vois... Je ne vais pas dire ça, parce que ça fait déjà quand même un petit moment qu'on nous en parle.
Oui.
Mais à l'heure actuelle, ce qui me dérange énormément, c'est que quand on voit l'état des routes, alors qui est responsable de l'accident? C'est le motard ou l'état de la route? Voilà, le gros problème, il est là.
Il y a beaucoup de motards maintenant, qui disent... C'est vrai ce que vous dites. Votre argument, je l'ai beaucoup entendu ce matin en préparant cette émission. Ok, très bien, vous nous faites payer un contrôle technique. Ok, d'accord, mais jouez le jeu vous aussi avec les routes. Or, vous, puissance publique, État, département, région, vous ne jouez pas le jeu et vous laissez des routes en très mauvais état qui nous mettent en danger.
C'est ça.
C'est vrai.
C'est ça. C'est sûr que c'est pas bon, le contrôle technique, je suis pas pour, je suis pas contre. Par contre, à la revente d'une machine, oui, un contrôle technique, oui. D'accord. Pour éviter toute arnaque, pour éviter des accidents, des gens qui achètent des machines qui ne savent pas ce qu'ils achètent.
Qu'en pense Agnès, qui a fait le 3210 également? Elle doit être motarde alors, Agnès. Bonjour Agnès.
Bonjour Eric. Donc oui, Agnès, c'est motarde. Bonjour Agnès. Effectivement. Bonjour Eric.
Vous êtes dans quel coin?
On a des points de convergence avec Eric, puisque effectivement, moi, je disais que aussi au monsieur que j'ai eu tout à l'heure au standard, c'est qu'effectivement, à la revente, nous n'étions pas contre, et uniquement comme ça se fait en Belgique, à la revente, ça avait un sens. Là, pour le coup, ça n'a aucun sens, parce que, et c'est vrai que c'est ce que je disais, je suis contre sur la forme qui nous est proposée, d'autant que sur les textes, il était indiqué que le contrôleur invite, alors ça ne concerne que les motos, les autres véhicules ne sont pas concernés, mais au niveau des motos, le contrôleur invite le conducteur à présenter sa moto, à la mettre sur le banc et à effectuer un certain nombre de manipulations pour lui permettre de faire les contrôles. Mmh. Et comme je disais, moi, il n'est pas question que je bouge mon véhicule. J'ai déjà chez équipementier Dafy, Quand effectivement je vais changer mes pneus, parfois ils me demandent de le faire, je ne la monte pas. Donc il est hors de question, j'ai peur de glisser, c'est une moto qui fait 200 kg, ce qui est un petit poids au regard de certaines, mais pour autant, autant je la manipule moi sur des terrains que je connais bien, autant quand il s'agit de manipuler sur des terrains où il y a éventuellement de l'huile ou je ne sais trop quoi, il est
vous
hors
vous
de question.
Vous vous mettez en danger.
Bien. Voilà, c'est ça.
Qu'est-ce
et,
qui
et là, il y a un flou juridique là-dessus.
Merci Agnès Motarde du côté de Toulouse qui vient de nous appeler au 3210, les amis. Affaire à suivre, non même pas à suivre, parce que le contrôle technique des deux roues, ça y est, c'est réglé pour les voiturettes sans permis aussi. Mais j'entendais, je voulais entendre vos réactions. Dans un instant, vos réactions sur un autre sujet. Ouh là là ! Vous vous promenez avec votre chien en forêt s'il n'est pas tenu en laisse. En forêt, hein. C'est 750 euros d'amende et cette fois-ci, ça va être appliqué.
Jusqu'à 14h30, Éric Brunet vous donne la parole sur RTL. Éric Brunet, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Bon, je vais pousser un coup de gueule parce que j'en ai marre de ce gouvernement qui taxe, qui taxe. Maintenant, il ne sait pas quoi trouver, il va taxer les chiens qui courent. Non, mais à quoi ça arrive de donner des amendes aussi importantes en plus parce que les chiens ne sont pas en laisse? Mais qu'est-ce que c'est que ce... Ce gouvernement, après avoir taxé les vieux et vachis petits, il taxe pour les chiens maintenant. Voilà, c'est le coup de gueule que je voulais passer. Je vous remercie.
Voilà, c'est pas un fantasme, hein, c'est vrai. Chien non tenu en laisse, Lisa Marie, en forêt, et hop, 750 euros d'amende.
En fait, c'est une loi qui existe depuis 1955, hein, mais à partir
elle
du...
Elle a 70 ans, cette loi.
Oui.
Enfin, j'ai jamais... moi-même, avec mon chien...
Votre chien Pascal, vous le promenez en laisse ou pas?
En forêt. Mais jamais de la vie. Mais jamais. Jamais.
Et bah désormais, il faudra. Et jusqu'au 30 juin, parce que si vous ne le faites pas, et bien vous risquez 750 euros d'amende, jusqu'à 750 euros d'amende.
C'est-à-dire que jusqu'à présent, la loi existait, mais elle n'était pas vraiment respectée, voire pas du tout. Et là, le gouvernement nous dit, attention, cette loi qui existe, maintenant on va l'appliquer.
Oui, parce qu'il y a des nouveaux enjeux environnementaux. En fait, on a choisi cette période du 15 avril au 30 juin, puisque c'est à cette période précise que débute la mise à bas des mammifères et la nidification des oiseaux. Donc c'est vraiment pour protéger les animaux, la faune dans les forêts que désormais il faut attacher, enfin tenir vos chiens en laisse, je vais y arriver, en forêt.
Jérémy a fait le 3210, mon cher Jérémy, je vous salue, bien bas.
Bonjour Eric, comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Ça va très bien, merci.
Dans quel coin de France êtes-vous, Jérémy?
La plus belle région, la Lorraine.
La Lorraine. Alors Jérémy, vous avez un chien, vous?
Oui, un bosseron.
Un bosseron, vous le promenez en forêt?
Évidemment, j'habite en campagne.
Oui, et votre bosseron, vous le promenez en forêt en laisse?
À votre avis?
À mon avis, non.
Voilà.
Bon.
Je ne vois pas l'utilité. Comment dire? Les animaux qui ne s'y mettent pas, etc., je comprends qu'il faut protéger. Je suis d'accord avec ça. Mais que le chien soit attaché ou pas, ça les gêne, ça les perturbe. Donc je continuerai à le promener, détaché, ça revient au même.
Ouais.
C'est la même chose, c'est exactement la même chose.
Ouais,
et je pense pas, enfin du moins, en Lorraine, on manque ni de chevreuils, ni de sangliers, ni de tout autre mammifère sauvage. Mmh. Il y en a beaucoup. Donc,
d'autant qu'un animal perturbe les équilibres dans une forêt, c'est qu'on embête les gens qui ont des quads, qui traversent la forêt le dimanche, qui font un raffut dingue, qui effraient les oiseaux, mais
il y en a. C'est nous, on a tous les ans un enduro qui s'appelle le Val de Lorraine. Donc c'est un enduro moto, il y a 400 inscrits en moyenne qui prennent un chemin précis. Et ça n'a jamais perturbé la faune non plus.
Bon, ben voilà. Mais en tout cas, moi, j'arrive pas à comprendre qu'un chien, un animal, voilà, qui se promène en liberté pendant un quart d'heure, une demi-heure, une heure, deux heures, l'après-midi en forêt.
C'est ça. Je vois pas ce qui pourrait déranger. Quoi. En plus, moi, j'y vais tous les week-ends, les voir tous les soirs, j'ai pas le choix, donc je le promène.
Ouais.
Et honnêtement, hormis les gens de mon village, donc dans le village, ils sont attachés, on laisse.
Oui.
Mais dès qu'on sort, qu'on est dans les chemins ou en forêt, ils sont détachés, ils font ce qu'ils veulent.
Bah,
ils courent, on leur prive un peu de leur liberté, quoi.
Ouais. Bah oui, ça vous imaginez dans les chemins à la campagne, votre chemin en votre chien en laisse là pendant des heures, vous croisez personne.
Moi personnellement non, je pense qu'il serait pas content.
Ouais. Jérôme a fait le 32-10, restez hein Jérémy. Jérôme, bonjour, oui. Mon cher Jérôme, vous êtes où, du côté de l'Alsace vous?
Oui, bonjour Eric, bonjour à tous. Alors oui, je suis voisin de Jérémy, je suis en Alsace.
Alors,
moi je comprends Jérémy, hein, qui effectivement doit promener son chien. Alors si j'ai bien compris, il vit à la campagne, donc il connaît parfaitement les habitudes des gens de la campagne. Je les connais également. Et moi je crois que cette annonce, elle s'intègre dans un contexte beaucoup plus global qui est celui du vivre ensemble, comme vous avez pu l'aborder tout à l'heure, qui est prendre du voisinage, mais surtout de la protection de la biodiversité et du respect de l'environnement par tous. Et moi, j'observe depuis, je suis un grand utilisateur de la forêt en tant que usager loisir. Hein. Je suis sportif, je suis chasseur également, je suis pêcheur. Je fais du triathlon, donc je suis très souvent en forêt, en VTT, en course à pied. Et depuis la sortie du confinement, on a quand même assisté à un afflux de nouveaux usagers de la forêt et qui a fait que il va falloir qu'on vive ensemble, tous ensemble. Et qu'il va falloir respecter des règles qui existent depuis très longtemps et qu'on ne connaissait pas forcément. Alors celle-ci en fait partie, mais je pourrais vous citer l'exemple aussi des forêts privées qui ont un petit peu décrié la chronique ces derniers temps, où on a vu des propriétaires privés forestiers interdire l'accès à leurs propriétés pour les randonneurs notamment. Pourquoi ? Parce que on a fait face à un problème d'indiscipline, d'irrespect des usagers, des espaces naturels. Alors, c'est toujours la même chose. Hein. C'est quelques personnes ne respectent pas la règle et on fait,
Je comprends ce que vous dites.
La collectivité d'ensemble du problème.
J'entends totalement votre argument, ouais. Jérôme, et je souscris aussi. Mais convenez que, à partir du moment où on doit tenir un chien en laisse dans un parc urbain, en ville, dans la rue, en ville, et dans la forêt, à la campagne, il n'y a plus de chiens. Ça ne sert plus à rien, les chiens. Ça veut dire que c'est une vie tenue en laisse. Il sera toujours tenu en laisse, sauf à l'intérieur de la maison.
Alors, attention, là, ce dont on parle aujourd'hui, c'est une période limitée. C'est-à-dire que ça commence aujourd'hui, ça s'arrête au 30 juin. Déjà, ouais. Ça n'est pas toute l'année. Pourquoi ? Parce que ça a été rappelé, c'est pour protéger les animaux sauvages qui mettent bas, aussi bien les oiseaux que les mammifères. Déjà, c'est une période relativement courte. Donc, en dehors de cela, très honnêtement, bon, j'ai dans mon entourage des gens qui ont des chiens, qui les promènent en forêt, qui se sont déjà vus faire la remarque par des gardes forestiers parce que leur chien n'était pas tenu en laisse. Et très honnêtement, toutes les personnes que je connais n'ont jamais été verbalisées.
Oui, mais l'État nous dit. Oui. L'État nous dit cette fois-ci cette règle, on va l'appliquer.
Oui,
attendez, bougez pas, Jérôme.
Oui, tout à fait.
Je voudrais prendre Valérie qui a fait le 32-10 pour faire tourner un peu la parole. Ouais. Valérie, bonjour.
Allô. Ce que je viens d'entendre, bonjour Monsieur Eric.
Bonjour.
Ce que je viens d'entendre me met particulièrement en colère.
Alors pourquoi Valérie ? Argument.
Alors je soutiens le point de vue d'Olivier, mais alors ce que vient de dire Jérémy me met particulièrement en colère, surtout que je me doutais de ce qu'il allait dire, à savoir qu'il est un chasseur. Alors pour moi, je parle d'un
chasseur. Principe. Non, je ne chasse pas. Moi.
Je pars d'un principe, c'est que pour moi, les êtres qui dérangent le plus, les animaux dans les forêts, etc., pour moi, c'est l'humain. Et ceux qui détruisent également la faune, pour moi, ce sont les humains, ce ne sont pas les chiens. Ça me met particulièrement en colère.
Je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord avec vous.
Tout ce qu'on trouve comme détritus dans la forêt, etc. Ce ne sont en aucun cas les chiens qui perturbent la faune.
Je suis parfaitement d'accord avec vous. Oui. C'est ce que je rappelais tout à l'heure. Oui. On observe ce phénomène particulièrement depuis les confinements où on a vu énormément. Beaucoup plus de monde.
Qui parle ? C'est Jérôme, le chasseur alsacien.
Je suis d'accord avec madame, en fait. Pourquoi est-ce qu'effectivement on tape un peu de poing sur la table ? C'est parce qu'on a vu cet afflux d'usagers de la forêt augmenter depuis la sortie du confinement. Et madame a raison, c'est l'homme qui détruit les espaces naturels. Et par conséquent, à un moment donné, il faut mettre un petit peu de règles dans tout ça. Et je pense que si chacun y met un petit peu du sien, on devrait y arriver.
Jean, va faire tourner la parole. Jean appelle au 3210. Jean, bonjour mon cher Jean.
Oui, bonjour.
Vous avez des chiens ?
Oui, je suis un passionné d'animaux, j'ai deux chiens. Depuis d'ailleurs que j'ai mes chiens, j'aime plus les humains, comme on dit. Mais madame a raison, en fait, concernant la pollution, en fait, il faut pas tout mélanger. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avoir un chien, c'est la liberté, c'est très bien, mais on doit pas l'imposer aussi aux gens. C'est-à-dire que des fois, on peut se balader en forêt, on peut avoir peur des chiens sans être propriétaire des chiens, et avoir deux gros chiens qui nous arrivent dessus. Et de loin, un propriétaire qui nous dit « Mais il est gentil ». Bon, ça, c'est des choses qui m'arrivent. Je suis souvent en conflit avec des gens dans la forêt quand je me balade.
Ça m'est déjà arrivé en vélo, d'ailleurs.
Voilà, je confirme que... Et de loin, en
plus, ça m'arrive aussi, il y a dessus, ça arrive pas dessus.
Donc, bon, c'est assez délicat, ce genre de d'interaction en forêt. Après, je pense que...
Donc, vous, Jean, vous pensez que c'est bien qu'on verbalise les propriétaires de chiens qui se promènent avec leurs chiens?
Pour vous dire, je suis policier en conversion professionnelle, je pense pas qu'on retrouvera des agents en plein milieu de la forêt, tous les 500 mètres, en train de verbaliser. Ouais. Je pense que c'est plutôt une question de principe de précaution, de dire, voilà, maintenant, nos chiens, on les impose pas pour avoir, comme on dit, une petite fille, un enfant qui a peur des chiens, etc.
Bon,
etc.
Merci.
Il suffit de le rattacher. Moi, c'est ce que je fais quand je vois des personnes au loin, je prends mon chien, je le rattache.
Moi aussi, je fais ça. Honnêtement, je fais ça, oui. Merci Jean, merci Jérôme, merci Jérémy, merci Valérie, merci les amis. Isabelle Choquet d'RTL, bonsoir, est avec nous. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir, bonjour, et
bonjour,
ça va bien ?
Bonjour Isabelle, bonsoir.
Ce sera bonjour, tout à l'heure, bonsoir.
RTL, bonsoir, je suis perdu. Isabelle, que va-t-il se passer à 18h ?
Alors, ce soir, nous recevons Artus, l'humoriste qui remplit les zéniths partout en France. Il vient de réaliser un film hilarant et vraiment très touchant sur le handicap. Un petit truc en plus, c'est le titre, et c'est vraiment formidable. Et puis, il en parle très bien. Et puis, ne manquez pas notre grand quiz de l'actu pour gagner ce soir un week-end en relais château 5 étoiles avec spa et piscine, deux piscines même si j'ai bien compté. Pour participer, vous envoyez bonsoir au 64 900. Voilà, à tout à l'heure.
C'est une petite partie du programme parce que j'imagine que ça va être beaucoup plus riche.
Et c'est très évolutif car nous collons à l'actu, Eric.
Merci Isabelle. Que va-t-il se passer, Lisa Marie?
Eh bien, nous allons partir découvrir notre auditeur du bout du monde et c'est le moment de chercher, découvrir, trouver sa destination. Et pour cela, un indice sonore.
Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Combien de fois.
Est-ce que c'est un pays d'Afrique ?
C'est un pays d'Afrique, okay. D'où est originaire Corneille, qu'on entend chanter.
J'ai trouvé.
Si vous trouvez, vous nous envoyez un message sur l'application RTL pour tenter de remporter un guide du routard.
Éric Brunet vous donne la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
C'était le chanteur Corneille qui chantait. Le chanteur Corneille est originaire, Lisa Marie.
Du Rwanda.
Est-ce que quelqu'un a trouvé la bonne réponse, Enzo?
Oui, tout à fait. C'est Marc qui nous vient de l'Heureux, qui remporte le guide du routard.
Et voilà. Allez, nous allons donc à Kigali.
L'auditeur du bout du monde.
Et Kigali, nous allons retrouver Steven. Nous avons un petit problème de connexion avec Steven, mais on va le retrouver, c'est pas grave. Je me souviens, moi, d'avoir croisé... il est là, ben voilà, bon, j'allais meubler, mais plus besoin de meubler. Bonjour Steven.
Bonjour
Steven.
Ben, je vais la raconter, l'anecdote. Un jour, j'ai croisé, vous savez, l'ancien ministre Jean-Louis Borloo, qui s'était occupé d'un grand défi, l'électrification de l'Afrique. Il avait été dans tous les pays d'Afrique et je lui avais dit, ici, à RTL, je vais poser la question, quel est le plus sympa des pays d'Afrique dans lequel vous avez séjourné pour ce grand projet? Et il m'avait dit, le Rwanda. Voilà, c'était Steven.
Alors Steven, racontez-nous, c'est comment le Rwanda?
Bah, le Rwanda, en fait, c'est un pays, déjà d'une, qui est très très vert. Ce qu'on peut croire, en fait, d'un pays d'Afrique, c'est que on a toujours un petit peu l'idée, le désert et tout. Mais non, le pays, en fait, le Rwanda est un pays très très vert et on l'appelle le pays des mille et une collines parce qu'il est très vallonné.
Certains disent que c'est la Suisse de l'Afrique.
Oui, c'est ça, ouais. C'est sûrement, en fait.
Il paraît que c'est très propre, que on mange par terre, on se fait toujours des images de certains pays africains chaotiques, etc. Or, le Rwanda est un pays, Kigali notamment, est un pays assez propre. C'est vrai?
Oui, c'est vrai. En fait, déjà, ils ont interdit le plastique. En fait, quand on vient à l'aéroport, ils nous enlèvent tout ce qui est en plastique, donc ils recouvrent... qui recouvre nos affaires. Et du coup, c'est très très propre. Et ensuite, les routes sont balayées tous les matins par les gens par de la capitale.
Et avec... vous, Steven, si je me trompe pas, vous ne vivez pas à plein temps au Rwanda. Vous y êtes une partie de l'année pour votre travail.
Oui, c'est ça. En fait, je vivote entre la France et puis le Rwanda, où j'y vais une fois tous les deux mois. Et du coup, donc je connais très très bien.
Vous faites quoi quand vous êtes là-bas? Vous y allez pour quelle raison? Pour raison professionnelle?
Oui, mais en fait, surtout pour le sport, j'aide le cyclisme rwandais depuis 2016 au pays. Du coup, j'interviens pour faire venir des cyclistes rwandais en France, et je viens aussi au Rwanda pour former des mécaniciens.
D'accord. Oui. Ah ouais, vous êtes finalement un coach, formateur dans le monde du cyclisme professionnel, quoi.
Ben, je suis passionné déjà de vélo et le but c'est d'aider ces jeunes, et puis moi j'étais mécanicien dans une équipe professionnelle à l'époque, donc du coup ça me permet de retransmettre mon savoir-faire à des jeunes qui ont besoin.
Que reste-t-il? Vous savez, quand on prononce le mot Rwanda, c'est terrible, mais en France, les gens pensent au terrible génocide. Il y a des décennies entre Tutsi et Hutu au Rwanda. Est-ce que c'est toujours très présent là-bas?
Oui, en fait, c'est très présent, parce qu'en plus, là, on est vraiment dans le cœur du sujet, parce que ça fait 30 ans, là, ce mois-ci, que le génocide a eu lieu. Et en fait, bon, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup quand on est sur le pays en général, parce que c'est vrai que c'est des mots, en fait, qui leur rappellent de mauvais souvenirs. Mmh. Et bon, c'est vrai qu'on n'ose pas non plus rentrer vraiment dans leur vie privée, parce qu'ils ont vécu de choses vraiment très très horribles. Et c'est vrai que moi, avec ceux que je côtoie, la plupart ont entre 40 ans, sont les plus anciens, donc du coup, ils ont vécu ce génocide. Donc c'est vrai, de leur en parler, de leur faire rappeler de mauvais souvenirs, moi c'est pas trop mon...
Oui, c'est pas trop la chose. Ouais.
Mais par contre, c'est vrai que bon, maintenant le pays est de plus en plus jeune, donc ça commence aussi un petit peu
Vous recommanderiez, vous, d'aller y faire du tourisme pour ceux qui sont des grands voyageurs et qui font des voyages l'été? C'est un pays formidable à visiter.
Ah oui, en fait c'est un pays qui est magnifique. On est en sécurité, c'est ce que je dis. On est encadré par des personnes, par des militaires partout dans le pays. Les gens font attention à tout. Il y a des belles choses à visiter. Il y a les gorilles aux portes des volcans. Donc c'est vrai que c'est vraiment, ça devient très touristique et c'est bon à vivre. Je veux dire, il y a zéro crainte. On est plus en sécurité au Rwanda qu'en France.
Merci.
Voilà. Merci Steven.
Merci à Steven. C'est dit. Merci à Steven. Le Rwanda, le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné y était il y a quelques jours d'ailleurs. Et c'est un cas rare où c'est un pays francophone qui est devenu récemment anglophone, qui a fait ce choix officiel et qui a même demandé à adhérer au Commonwealth après avoir été dans la sphère francophone. Il est 14h27. Bonjour Jean-Alphonse.
Bonjour Eric.
De quoi parlons-nous dans un instant?
Alors dans un instant, l'affaire Lola Davier, 12 ans, tuée à l'entrée de son immeuble, c'était il y a 2 ans. Et l'enquête touche à sa fin, on vous dit tout de suite dans l'heure du crime.
A tout de suite mesdames, messieurs, bel après-midi à l'écoute d'RTL. Au revoir Lisa Marie.
À demain.
À demain.